Vous écoutez
RMC. RMC Sport Show.
Thibaut Giangrande.
Salut tout le monde, comment ça va? Bienvenue dans le RMC Sport Show, le rendez-vous sport du dimanche soir à la radio. Une heure pour revenir sur l'actu fort du week-end avec notre membre de la Dream Team, Maryse Evangp. Salut Maryse.
Hello, hello.
Un 13 février 2022, historique pour le sport français. Saint-Etienne a gagné deux matchs de suite, Maryse. Mais il y a autre chose d'encore plus fort. Quentin Fillon-Maillet a décroché aujourd'hui une quatrième médaille sur ces JO de Pékin. C'est inédit pour un sportif français. Mieux que Fourcade, que Killy. Et c'est la dixième médaille en plus pour la délégation française en Chine. Dont il est question dans quelques secondes avec notre Dream Team. Sébastien Amier, Julien Richard, envoyé spécial sur place. On sera aussi en direct du Jura avec le papa de Quentin. En route vers le Grand Chelem, le 15 de France, c'est défait de l'Irlande hier au Stade de France. Deuxième victoire en deux matchs dans ce tournoi destination. Ce soir, on se projette avec l'invité du RMC Sport Show, le demi d'ouverture Romain Tamac à 19h45. On lui parlera grand chelem ou pas, Maryse? On essaiera quand même. On verra ce qu'il nous répond. On essaiera. Faut toujours essayer. Faut toujours tenter. Et puis, c'est l'événement de la nuit aux États-Unis. Beaucoup moins chez nous. On demandera pourquoi d'ailleurs. Le Super Bowl à Los Angeles. Reportage dans un club français, parce qu'il y en a, si, si, de football américain.
Sport Show.
On a du direct à 19h01 dans le RMC Sport Show. C'est du basket, la Betclic Elite, la 20e journée et cette affiche entre l'ASVEL et Monaco. Bonsoir Jérémy Donzé.
Bonsoir Thibaut, bonsoir Maryse, rebonsoir à toutes et à tous.
Bonsoir.
On a une minute trente de la fin du troisième avant-dernier carton et dans cette affiche, ce choc de la 20e journée de Betclic Elite, Thibaut, choc assez décevant jusqu'à présent, mais c'est l'ASVEL qui mène désormais 44-39, 5 points d'avance pour les Villeurbanais grâce notamment à un Mathieu Strazel retrouvé, 7 points pour lui, 5 dans les deux dernières minutes, et ça a permis aux 5071 spectateurs de l'Astrobal ce soir de se lever pour une fois dans ce choc assez décevant jusqu'à présent. 5071 spectateurs, notamment un certain Maxence Cacrel et cousin de l'OL qui sont venus ici voir un petit peu ce spectacle face à Monaco. Maxence Cacré, auteur d'une prestation XXL hier lors de la victoire de l'Olympique Lyonnais face à Nice. 1 minute 30 à jouer dans ce troisième et avant-dernier carton. L'ASVEL mène de 5 points, 44-39 face à Monaco.
Toujours aussi bien coiffé, Cacré.
Toujours aussi bien coiffé, hein. Ouais, impeccable à deux jours de son 22e anniversaire. Ouais.
Merci Jérémy. À tout à l'heure. 19h02, plus grand que Jean-Claude Killy, plus grand que Martin Fourcade, plus grand que le bureau de Vladimir Poutine. Quentin Fillon-Maillet a décroché ce midi sa quatrième médaille sur ces JO de Pékin.
RMC Pékin 2022.
Qui va lâcher la première balle? C'est Quentin, et elle est bonne. La première, la deuxième, c'est bon. 2 sur 2. La tip-off n'a pas encore tiré. 3 sur 3 pour Quentin, 1 sur 1 pour la tip-off. Allez, la dernière, le plein. Quentin Fillon-Maillet file vers le titre olympique. Quentin Fillon-Maillet est champion olympique de la poursuite. Il entre dans l'histoire. Premier sportif français à décrocher 4 médailles dans des Jeux olympiques d'hiver. Il se frappe les pectoraux et il montre, le sourire et à la caméra, il est exténué, il n'en revient pas, il nous dit quelques mots, il dit quelques mots à la caméra et il va savourer ce titre olympique monstrueux. Quentin Fillon-Maillet.
La une du RMC Sport Show.
Et c'était évidemment en direct sur RMC ce midi, midi 19 pour être précis, le commentaire de Julien Richard qu'on retrouve ce soir dans le RMC Sport Show. Salut Julien, en direct de Chine.
Salut à toutes et à tous, bonsoir.
L'un de nos envoyés spéciaux, salut. Sébastien Mier, et là également notre membre de la Dream Team. Salut Bastoun.
Salut à tous, salut les amis.
Bon, on l'a entendu, les poils en écoutant Julien ce midi, Quentin Fillon-Maillet dans l'histoire du sport français. Et en plus, Julien, cette course que tu as commentée sur place dans des conditions assez dantesques aujourd'hui.
Oui, et quelle manière du coup pour Quentin Fillon-Maillet qui s'impose avec un 20 sur 20, c'est-à-dire qu'il n'a pas raté une cible dans des conditions qui étaient vraiment extrêmement compliquées parce qu'il a neigé toute la journée ici à Zhangjiakou et il neigeait très fort au moment de la course et le vent aussi était bien présent. Il a joué des tours à certains et notamment à Johannes Bö, hein, qui était le grand rival de Quentin Fillon-Maillet qui avait remporté le sprint, qui s'était lancé avec 26 secondes d'avance sur Quentin. Il a complètement craqué, on va dire ça comme ça, Johannes Bö, avec 7 erreurs ou aussi peut-être jouer de malchance parce que quand il est arrivé sur son troisième tir, il a dû contrôler une énorme bourrasque de vent et 20 secondes plus tard, quand Quentin est arrivé, ça soufflait encore mais ça s'était un petit peu calmé. Il faut parfois un peu de chance pour réaliser de grandes performances. En tout cas, c'était déjà une énorme performance de réaliser ce 20 sur 20 pour Quentin Fillon-Maillet pour décrocher ce titre.
Oui, alors chance, je rebondis, il aurait pu ne pas en avoir aussi, Quentin Fillon-Maillet, sur son deuxième tir, quand il s'installe pour tirer, puis il y a un problème sur sa carabine. D'ailleurs, je ne sais pas, Julien, ce qui s'est passé, on l'a vu taper un peu dessus et finalement se reconcentrer et mettre les 5 balles, mais on a eu peur à ce moment-là quand même. Là.
Et ça, c'est vraiment un truc qui montre montre bien qui est Quentin Fillon-Maillet, quel type d'athlète c'est. C'est-à-dire qu'il a un problème, il arrive, c'est quand même un truc de dingue. T'arrives sur ton deuxième tir, tu joues là une médaille d'or et il y a un souci mécanique dans la carabine. Il avait du mal à expulser d'abord la balle qui était restée du tir précédent avant de mettre la cartouche. Donc il s'est agacé, il a tapé dessus pour que ça sorte un petit peu. Et derrière, hop, on s'est remis dans le, ça pourrait déstabiliser complètement, bah, il s'est remis dedans et il est allé signer un plein magnifique sur un 5 sur 5 sur ce deuxième tir couché. Donc, ça montre un peu quel type de caractère il peut avoir dans la détermination et puis voilà, dans la maîtrise sur de son élément.
Maryse Bastoun, racontez-nous ce moment, la mi-journée, ce dernier tir qui rentre quand on comprend Quentin Fillon-Maillet va décrocher cette deuxième médaille d'or, cette quatrième médaille. Moment d'histoire du sport français quand même aujourd'hui. Hein.
Bah en fait c'est vraiment ce qui a été impressionnant, c'est ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire le voir secouer sa carabine dans tous les sens. Tu dis non mais attends, mais jamais il va pouvoir tirer après ça, et que derrière tu vois que ça le fait complètement, comme si en fait le stress avait été déversé uniquement dans cette façon de secouer sa carabine, et qu'après de nouveau le gars est en pleine possession de ses moyens. Et là j'étais devant ma télé, j'ai dit non mais en fait il peut rien lui arriver, c'est pas possible. Quand tu vois quelque chose comme ça, tu te dis, enfin il y a quelque chose qui te rend toi-même confiant en regardant. Et Dieu sait, ça, je pense que la famille, les amis pourront nous le dire, si c'est beaucoup plus difficile de regarder que de faire, parce que le stress qu'on a en regardant en général, c'est on sait pas ce qui va se passer. Et là, curieusement, on le regarde lui et on sait ce qui va se passer.
Bastoun, t'as eu ce stress aussi là?
Ouais, puis ce stress, voilà, quand tu sais que ça peut être un problème technique, c'est ça qui est frustrant, parce que nous, on le voit de la télé, lui, il le sent. Alors, est-ce que c'est un facteur gel, hein, puisque vous le savez que les athlètes transpirent beaucoup et que la carabine est posée sur le dos. Donc, peut-être avec la chaleur du dos et le gel de la balle, ça peut être aussi une balle qui grippe un peu dans le canon, mais en tout cas, quelle dextérité. Et puis voilà, comme je dis souvent, les grands champions ont toujours de la chance. J'ai jamais vu un athlète mauvais qui a de la chance. Ça arrive souvent au bon. Et à ce moment-là, c'est le moment des jeux, c'est le moment d'écrire aussi une page de l'histoire, puisqu'il est le Français le plus titré sur des Jeux Olympiques d'hiver. Et que ça aurait été frustrant de perdre ce titre sur une faute comme ça, ou un accident technique comme ça.
Et on va reparler dans quelques instants de ce statut effectivement inédit, 4 médailles sur une seule et même édition des Jeux Olympiques. Mais on va l'écouter, Quentin Fillon-Maillet, notre désormais double champion olympique après sa victoire aujourd'hui.
Aujourd'hui, je me surprends clairement. C'est clair que si j'avais continué, ne serait-ce juste qu'avec une médaille, j'aurais été hyper satisfait. Mais là... médaille d'or aujourd'hui, c'était bien au-delà de mes rêves. Et voilà, quand j'étais petit, je me disais, j'ai envie de créer mon histoire, de créer, d'écrire l'histoire du biathlon. Et c'est chose que je fais aujourd'hui. Donc voilà, c'est vraiment un rêve. Et 4 médailles en 4 courses, je ne peux pas décrire ces moments, mais c'est tellement fort, c'est tellement beau. Là, je vais déjà me reposer parce que la machine a besoin de repos maintenant.
Quentin Fillon-Maillet, à ton micro, Julien Richard, après cette course. Alors, ce que je vous propose, c'est que ce soir, dans le RMC Sport Show, on prenne la direction non pas des montagnes chinoises, non pas de tes hautes montagnes, à toi, Bastoun non plus, mais on va prendre la direction des monts du Jura, direction Saint-Laurent-Grandvaux. Nous sommes en direct avec Laurent Fillon-Maillet, le papa de Quentin Fillon-Maillet. Bonsoir, Laurent.
Bonsoir ou bonjour, on sait plus.
dites-nous, c'est quoi, vous êtes
pour moi c'est bonsoir.
Vous êtes un peu perdu là, racontez-nous, vous rendez compte, votre fils, vous entendiez Sébastien Amier dire c'est le premier à décrocher 4 médailles, premier athlète français sur une seule et même édition de Jeux Olympiques. Vous le réalisez ça quand vous l'entendez?
Oui, j'ai appris ça ce matin, que aucun Français n'avait réalisé que 4 médailles sur une Olympiade. Donc c'est vrai que Quentin marque un peu l'histoire, quoi, voilà.
Ouais. Comment vous avez vécu la course? On imagine une immense fête là dans le Jura. Racontez-nous comment ça s'est passé.
Oui, en fait, on avait prévu une petite salle, petite relative, avec 200 personnes maximum. Et du coup, au dernier moment, on a On a pris une autre salle de notre commune, un gymnase qui peut accueillir 600, voire 700, 800 personnes. Et en fait, aujourd'hui, oui, on avait, je pense, 400, 500 personnes qui étaient là, à supporter, à crier. Et ouais, ça nous a vraiment fait chaud au cœur d'avoir autant de monde sur place. Là, ouais.
Et dites-moi, Laurent Fillon-Maillet, parce que là, ça fait 4 médailles. Il y a encore 2 courses, donc 2 médailles potentielles pour Quentin. Va falloir commencer à poser des jours de congé. Vous avez réussi à récupérer entre 2 courses, vous aussi, là?
Ouais, je pense qu'on va falloir demander au patron, là, notre chef, hein, demander des congés. Non, mais il n'y a pas de problème. Et oui, je pense que Quentin n'a pas envie de s'arrêter là. Et oui, en cours de course, j'espère que le relais sera fructueux, au moins la médaille. Après, tout dépend de lui et aussi de ses coéquipiers. Et sur la Mastart, je pense qu'il n'a pas envie de lâcher le morceau. Voilà. Mmh.
Julien Richard.
Oui, bonsoir. Est-ce que déjà vous l'avez eu au téléphone depuis? J'imagine que c'est un peu compliqué. Et surtout, est-ce que depuis qu'il est tout petit, il a cette envie de marquer l'histoire de son sport? C'est quelque chose qu'il a déjà exprimé et qu'il exprime depuis longtemps?
Je pense, oui, certainement. Mais c'est un rêve d'enfant, de beaucoup d'enfants dans tous les sports, je pense. D'être champion olympique, ils ont tous un peu une idole. Quentin, c'était Björn Dahlen, Martin Fourcade dans un deuxième temps, Raphaël Poiret. Donc, ils avaient tous un petit poster ou un poster dans leur chambre dédicacé de l'un ou l'autre. Donc, oui, Quentin, il avait un rêve, mais le rêve, c'est quelque chose, c'est comme tout. On a tous un rêve au coin de notre tête, mais en fait, son rêve se réalise, mais c'est pas facile quand même. C'est quelque chose d'exceptionnel. Ouais.
Laurent Fillon-Maillet, le papa de Quentin, est sur RMC ce soir. On va vous libérer, Laurent, mais juste, Sébastien Amier, alors, il est moins médaillé que votre fils, hein, mais il est quand même vice-champion olympique il y a 20 ans.
Oui, il est quand même champion olympique et tout. Oui, ouais,
vice-champion olympique en slalom il y a 20 ans et il a un mot pour vous. Vas-y, Bastoun.
Déjà, j'aimerais féliciter le papa parce que sans le papa et la maman, les athlètes sont pas là.
Oui.
Faire vivre à nos parents ce qu'on fait vivre, c'est émotionnellement important et c'est vrai que la question elle est comment en tant que parent on peut exprimer voilà cette réserve mais aussi cette joie qu'on peut expliquer aux téléspectateurs parce que vous êtes dans des moments où les parents sont là, accompagnent leurs enfants, il y a les moments de doute, il y a les moments de gloire, mais il y a plus souvent de moments de doute que de gloire et c'est ça la vraie question qu'on doit expliquer aux auditeurs.
Oui, c'est sûr, mais je pense que vous êtes aussi bien placé que nous pour en parler, hein. Vous avez été athlète de haut niveau, vous avez été champion olympique et c'est vrai que vos parents ont vécu exactement la même situation que nous en ce moment. Oui, ça fait une vingtaine d'années, donc il y a un peu de recul pour vous, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'exceptionnel. Je pense que vos parents, comme nous, ont vraiment du mal à réaliser de ses performances et il faut qu'on en profite au maximum. C'est vrai que champion olympique, c'est pas tous les jours, c'est pas tous les parents qui ont un enfant champion olympique. Et, oui, on a vraiment du mal à réaliser. Oui.
Bon, en tout cas, merci Laurent Fillon-Maillet et bravo merci, à Quentin, bravo à toute la famille. Passez une bonne soirée dans le Jura.
Merci, merci à tous vos internautes, à tous les gens qui suivent le biathlon et le sport en général. Et merci.
Avec plaisir sur RMC, on est là. Merci, passez une bonne soirée Laurent et à très vite sur RMC. Bonne soirée à vous. C'est le RMC Sport Show. Salut Laurent. On est toujours avec Bastoun, notre membre de la Dream Team, avec Julien Richard depuis la Chine, avec Marie-Zéven Gépé. Il y a ce côté historique, c'est vrai, ce soir il dépasse Martin Fourcade, Anaïs Bescon, Jean-Claude Killy, Henri Oreiller, c'est plus vieux, 48, sur le nombre de médailles sur une seule édition de Jeux Olympiques, c'était 3 jusqu'à présent, c'est 4, c'est inédit pour un Français. Tiens, Julien, toi qui a bien connu Henri Oreiller, non je plaisante, qui a bien connu Martin Fourcade le dernier, est-ce qu'on peut comparer les deux? Ça c'est un peu un jeu de journaliste, mais est-ce que c'est le même type de biathlète Quentin Fillon-Maillet que Martin Fourcade? Est-ce qu'on est parti pour une ère Fillon-Maillet comme on a eu avec Martin Fourcade?
C'est une très bonne question et c'est très difficile de répondre à cette question. Déjà, juste préciser, c'est sur des jeux d'hiver. Hein, j'avais vérifié sur des jeux d'été, des athlètes français qui ont plus de 3 médailles. Ça date de 1920-1924, donc pareil, c'est une autre époque.
On les embrasse,
sur la histoire de la comparaison... Ouais, je ne crois pas. Sur l'histoire des comparaisons, effectivement, c'est, je dirais pas que c'est les mêmes. C'est pas du tout les mêmes caractères. Après, c'est pas les mêmes forces non plus. Mais peut-être ce qui peut les rattraper, c'est ou les rassembler, c'est cette envie de jouer, alors de manière différente, mais ils adorent tous les deux la confrontation et on l'a vu sur des épreuves comme la poursuite. Quand ils sont en pleine possession de leurs moyens, ils sont intouchables parce qu'ils adorent ça, la confrontation, le défi physique, mais aussi mental, parce que c'est extrêmement mental dans cette discipline, dans le biathlon et en plus dans une poursuite où on est à côté de l'adversaire qui va tirer. Donc peut-être que sur ce point-là, on peut les rassembler un peu.
Bah, en tout cas, on va l'écouter, Martin Fourcade, parce qu'après avoir une réaction de Quentin Fillon-Maillet, Julien Richard, tu as tendu ton micro, Martin Fourcade, qui cède donc son record, qui est en Chine hein, également, qui est sur place, consultant désormais. Martin Fourcade parle de Quentin Fillon-Maillet.
Bah, c'est une performance incroyable, être capable de tirer à 20 dans ces conditions. Quentin arrive juste derrière, il réussit à dérouler son meilleur biathlon, ce qu'il fait depuis le début de la saison, en étant en pleine confiance, en étant au-dessus des autres. Et voilà, c'est magnifique de le voir aujourd'hui faire perdurer cette belle tradition du biathlon français, spécialement sur la poursuite, avec au moins un Français sur le podium de chaque poursuite olympique depuis sa création.
Oui, et d'ailleurs, il était double champion olympique en titre de la poursuite spécifiquement, Martin Fourcade. J'ai une vraie question que je veux poser aux anciens athlètes que sont Marie Zévon-Gépé et Sébastien Amier. On se posait la
Pourquoi
question...
Pourquoi d'habitude, tu poses que des fausses questions?
Oh, parfois, mais on évite. Mais question qu'on se posait à la rédac tout à l'heure, après la victoire. Est-ce que Martin Fourcade, il est vraiment content pour Quentin Fillon-Maillet ou... Il avait le record, il l'a plus, il est un peu deg quand même à votre avis.
Pour moi c'est un peu des deux, mais oui c'est un peu des deux, mais je pense que ce qui prédomine aujourd'hui c'est sûrement la joie parce que il a suivi le parcours, qu'ils sont complètement solidaires, qu'il est dans le bonheur pour l'athlète qu'il va interviewer, dont il va parler, etc. Puis après oui, il peut y avoir un petit pas un regret, mais une sorte de nostalgie en fait, ouais.
Bastoun, à ton avis?
Ah, c'est mitigé. C'est vrai que Martin, le connaissant, voilà, maintenant il a rangé les skis, la carabine au placard. Je pense que c'est plutôt un honneur de aussi de voir quelqu'un qui peut dépasser ses records, parce que c'est aussi grâce à lui. Hein. C'est des gamins qui ont grandi à ses côtés, qui ont appris à ses côtés et qui aujourd'hui dépassent pas le maître. Qui commence à égaler le maître, voilà, et c'est ça aussi, on l'entend Martin dans sa déclaration. Ce qui est valorisant, c'est pour le biathlon français, c'est pour le biathlon mondial. Et ce qui est en train de marquer Quentin Fillon-Maillet, c'est exceptionnel. Et il lui reste encore deux courses. Donc aujourd'hui, on est une analyse après quatre courses. Mais croyez-moi qu'à la fin de la semaine prochaine, on va parler encore différemment de Quentin Fillon-Maillet. Ouais. Parce que il écrira peut-être encore plus l'histoire de l'olympisme et puis de sa carrière. Et c'est vrai que c'est toujours une question un peu piège. Mais en tout cas, je pense qu'il y a de la sincérité dans la déclaration.
Ah, oui.
De Martin,
oui,
et j'en suis sûr. Et puis c'est normal parce que les records sont faits pour être battus, et aujourd'hui tous les records sont faits pour être battus par des grands champions.
Mais c'est vrai que quand tu dépasses l'athlète que tu avais en poster dans ta chambre, ça va faire quelque chose. Moi je m'imagine le jour où je dépasserai Christophe Cessieux, ça va être formidable. Julien, rapidement, il reste deux.
Est-ce que ça arrivera un jour?
Beaucoup trop.
Encore 30 ans de carrière, mon gars.
Il reste deux courses à Quentin Fillon-Maillet, juste rapidement. Rapidement, quand est-ce qu'on vit ça sur RMC, Julien, la Mastart et le relais masculin?
Très vite. Ouais. Très vite, puisque ce sera dès mardi, le relais masculin, et la Mastart, ce sera la dernière course, donc, et ce sera samedi. Les filles, ce sera dimanche, mais les garçons, c'est samedi, la Mastart.
Vous êtes dans
le relais, c'est mercredi.
RMC Sport Show avec Julien Richard, en direct de Chine, avec Bastoun et Marie-Zévon GP, nos membres de la Dream Team. On s'est intéressé à ce record historique, cette quatrième médaille pour Quentin Fillon-Maillet. C'est même une journée historique, ce 13 février. Trois médailles d'un coup, hein, pour la France. On est à 10 médailles parce que il y a eu l'or avec Quentin Fillon-Maillet, mais un peu plus tôt, pour les Lefteaux ou les Couchetard qui nous ont suivis sur RMC, il y a eu deux médailles supplémentaires pour la France, deux médailles de bronze pour le relais masculin en ski de fond et pour Mathieu Febvre sur le géant, et épreuve remportée évidemment par l'intouchable Dermatt cette année. Bastoun, Mathieu Febvre, troisième sur ces JO, c'est vraiment lui, c'est l'homme des grands rendez-vous, c'est assez incroyable ce qu'il a pu faire aujourd'hui.
Ah bah c'est sûr que maintenant à chaud, on peut dire que c'est l'homme des grands rendez-vous. Oui, c'est beaucoup plus facile à dire, à justifier, et puis c'est lui qui l'a fait surtout. Il était sorti sur un échec à Pyeongchang en 2018 avec cette 7e place. Il a su se reconstruire l'année dernière pour aller glaner le titre de champion du monde en individuel sur le géant, mais aussi en parallèle. Et puis cette année, voilà, ce support de ces deux médailles l'ont vraiment fait passer un cap. Il était dans une saison plutôt difficile en Coupe du Monde, avec des bonnes manches, mais pas des manches pleines. En tout cas, là, il a réussi à être au contact dès la première manche, et c'est chose qu'il fallait faire, hein, ne pas lâcher le morceau dès la première manche et essayer de finir le travail sur le second tracé. Et voilà, il vient chercher une très belle médaille de bronze. Alors c'est vrai que pour aller chercher la gagne aujourd'hui, c'était compliqué. Oui. Mais en tout cas, on retiendra de lui que c'est l'homme des grands événements. Il a une course au championnat du monde. Peut-être, bien sûr, qu'il sera au Team Even aussi, mais en fin d'Olympiade. Et là, il arrive avec cette casquette de favori et il répond présent. Et c'est ça aussi la force des grands champions.
Alors, tu parlais de ces JO 2018. Je sais pas si vous vous souvenez, Mathieu Febvre à Pyeongchang, il y a 4 ans, il avait terminé 7e en géant. Il avait été viré du groupe France à l'époque parce qu'il avait parlé publiquement, fait un peu part de ses états d'âme dans la presse. Et du coup, il avait été viré. Donc là, le retour 4 ans après, la médaille, c'est une revanche ou pas sur Pyeongchang, c'est la question qu'on lui a posée à l'issue de cette médaille de bronze.
J'avais pas de revanche à prendre par rapport à Pyeongchang. En fait, j'ai appris. C'est un peu le lien avec la préparation mentale. En fait, c'est que il faut aussi se servir des échecs. Il faut aussi se servir des moments très compliqués pour essayer de comprendre les raisons pour lesquelles ça s'est passé comme ça. J'ai énormément appris en fait de cet événement-là. Peut-être qu'aujourd'hui j'en suis là. Peut-être qu'aujourd'hui j'ai aussi 2 titres au championnat du monde parce qu'il s'est passé cet événement-là. Donc aujourd'hui j'ai pas de revanche en fait à prendre là-dessus. Au contraire.
Donc on peut dire, Maryse, faites-vous virer un jour dans votre vie, vous en reviendrez plus fort, c'est ça la leçon à tirer.
Pas pour tout le monde. Ce qui est étonnant, justement, effectivement, c'est le fait qu'il en tire absolument aucune rancœur, parce qu'il pourrait très bien recommencer à régler ses comptes. C'est beaucoup plus facile de régler ses comptes quand on a une médaille que quand on n'en a pas. Lui, visiblement, il est totalement résilient, c'est-à-dire que il était tourné vers sa compétition, vers son plaisir, et sûrement pas vers la rancœur ou la colère. Et parce que la colère, ça peut être un carburant, mais c'est un carburant qui parfois va gripper, va rouiller, ou en tout cas va pas t'emmener très longtemps. Ça peut t'emmener haut, loin, fort, mais pas très longtemps. Lui, visiblement, il est pas dans ce carburant là et c'est super, je trouve.
Oui, la deuxième médaille pour le ski alpin français sur ces JO, et juste j'ajoute, Bastoun, que joli tir groupé, alors bien pour Thibaut Favreau qui termine 5e, ex-aequo avec Alexis Pinturo, et là c'est une petite déception.
Ouais, oui, je vais juste reprendre le contexte de Mathieu Febvre. C'était une réaction à chaud, c'était une réaction d'échec après une course, où là forcément quand tu arrives à une interview, tu livres tes premières paroles, et c'est ça qui est dur, parce qu'il y a l'adrénaline qui retombe, il y a la déception, et forcément tu t'exprimes, et c'est le fond de toi qui t'exprime, parce que tu fais un sport individuel, des sacrifices que tu as fait, un échec de la course, et le résultat d'ensemble de cette course-là, souvenez-vous à l'époque où Alexis Pinturo avait fait 3e, ils avaient fait 5e, 6e et 7e. Les Français avaient répondu présent le jour de cette course. On lui avait posé la question, est-ce que le résultat d'équipe aujourd'hui vous satisfait? Et il avait dit les mots qu'il avait dit, j'en ai rien à faire de l'équipe. Voilà. Aujourd'hui, je pense que si on lui repose la question, oui. Il peut très bien dire oui, l'équipe a été très forte puisqu'on fait 3e et 5e ex aequo avec Alexis Pinturo et Thibaut Favreau, et c'est ça aussi, c'est ce qu'il faut lui pardonner, parce que tous les athlètes aujourd'hui ont tous dérapé à un moment. C'est pas dérapé, c'est des réactions d'athlètes, et c'est ça qu'il faut retenir de cette personnalité.
Je trouve même pas que ce soit un dérapage. Je trouve, enfin, si on n'est pas capable de comprendre ce propos, on est capable de rien quelque part. Mais en même temps, c'est logique. Il y a un ressenti sur le sportif en activité et celui qui va écouter, qui reçoit ça comme un affront ou un scandale. Ouais. Je trouve ça un peu violent quand même de le virer de l'équipe pour ça.
Parce qu'il y a 4 ans, on va pas refaire.
Non, mais c'est important parce que c'est important parce que quand on dit j'en ai rien à foutre de l'équipe, ça veut pas dire je m'en fous de l'équipe. Ça veut dire là en ce moment, je suis dans ma douleur, foutez-moi la paix.
Puis en plus de ça, tu sors de ta déception, t'arrives en zone d'interview, t'as Julien Richard en face qui vient te poser la question.
quand on te tend un micro, on te tend un micro, tu viens de te planter, t'as juste envie de dire, bah à ton avis, ouais, j'ai envie de me foutre la tête dans la neige et voilà, c'est tout quoi.
Tiens, pour conclure cette page Jeux Olympiques magnifique hein, aujourd'hui en ce 13 février, cette médaille exceptionnelle. Alors elle est en bronze, mais elle a une saveur, je sais pas, bien plus forte. Vous allez me dire ce que vous en pensez, mais sur le ski de fond, ce relais masculin conclu de manière magnifique par Maurice Magnifica aujourd'hui. Je sais qu'elle a mis les larmes à certains. Pourquoi cette médaille de bronze vaut un peu plus là ?
Parce que c'est la troisième en trois Jeux Olympiques. Qu'on se rappelle aussi que les Bleus avaient terminé quatrième battu au sprint 4 ans plus tôt, enfin il y a 4 Jeux Olympiques du coup, il y avait d'ailleurs Vincent Vitoz dans ce relais, et en fait c'est une espèce de dynastie de relais et c'est cette alchimie, ils sont présents sur tous les grands rendez-vous, hein, Jeux Olympiques, championnat du monde, et c'est vrai que c'est très très fort. Ils étaient aussi frustrés par le sprint, souvenez-vous notamment Richard Jouve qui avait une grosse carte à jouer, éliminé en demi-finale. Et là, donc Richard Jouve, Hugo Lapalu, Clément Paris et Maurice Magnifica, pour terminer ces Jeux Olympiques, c'est ces derniers JO, hein, à Maurice Magnifica, à Momo, il termine sur une troisième médaille de bronze dans ce relais-là, c'est sa quatrième médaille même aux Jeux Olympiques, donc c'est pour ça que il dégage un truc, ces quatre-là et cette équipe-là, et c'est pour ça que ça a touché pas mal de monde, que ce soit sur les pistes de ski de fond, mais aussi au biathlon, hein, on les voyait tous les coachs et tout ça avec l'oreillette en train d'écouter ce qui se passait et serrer le poing quand ils ont entendu que la France avait décroché cette médaille de bronze.
Maryse Bastoun.
C'est forcément, enfin moi, ces épreuves de comment dire, où on va au bout de soi-même, au bout de l'épuisement et où il y a une solidarité entre les gars absolument phénoménale, ça me touche d'autant plus que je suis totalement nulle dans tout ce qui est endurance. Donc quand je regarde leurs efforts, j'en ai tout de suite les larmes aux yeux également. C'est prenant, c'est poignant et ça se regarde, mais sans aucun souci. C'est drôle parce que, enfin c'est drôle, non c'est pas drôle, mais je trouve qu'entre le son en hauteur et le ski de fond, si tu veux, il y a rien à voir, et pourtant c'est le genre de choses qui me scotche à mon canapé quoi. Voire même sur mon canapé d'ailleurs, debout sur mon canapé.
Et ça fait 10 médailles pour la délégation française après ce magnifique dimanche 13 février. 10 médailles dont 2 d'or. Et messieurs, dames, rendez-vous la nuit prochaine dès 3h30 du matin pour l'intégrale Pékin 2022 sur RMC Radio officielle Pékin 2022, parce que la troisième médaille d'or, c'est annoncé à l'aide pour la nuit prochaine. On croise les doigts. En tout cas, Gabriela Papadakis, Guillaume Cizeron en danse sur glace. C'est le programme libre la nuit prochaine à vivre en direct sur RMC. Ils sont en tête. Ils ont battu
5h28, Thibaut. Hein.
5h28. Alors, on sera là dès 3h30.
C'est un peu tôt quand même. Hein.
Non, mais pour cette médaille d'or, ça sera magnifique. Et on sera là. Merci Bastoun. Merci Julien Richard. Bonne nuit à vous deux, hein, parce que vous êtes là dès 3h30 du matin, heure française, pour nous faire vivre ces magnifiques Jeux Olympiques de Pékin. Bonne soirée, les gars.
Salut à tous.
Salut, bonne soirée.
Et en attendant le direct de la nuit prochaine, le direct à 19h27 sur RMC, c'est le basket, la 20e journée de Betclic Elite, l'affiche Asvel Monaco, Jérémy Donzé.
Et suspense total, Thibaut, dans cette fin de match. Il reste 30 secondes à jouer dans cette partie et l'Asvel mène de 2 petits points face à Monaco, 64-62. Possession Asvel, le ballon dans les mains de Mathieu Strazel, auteur de 13 points notamment, de 2 tirs monstrueux à 3 points pour faire basculer cette fin de match. Mathieu Strazel qui attaque le cercle et ça ne rentrera pas. 17 secondes à jouer, 2 points d'avance pour l'Asvel. Dans les mains de Monaco.
Merci Jérémy, on se retrouve dans quelques instants pour le résultat final. Le foot également avec la dernière affiche de cette 24e journée de Ligue 1, Metz-Marseille. Les dernières infos depuis Saint-Symphorien à Sivir, puis le rugby. Le 15 de France est-il en route vers le Grand Chelem ? L'invité du RMC Sport Show, Maryse, Romain Ntamack. A tout de suite sur RMC.
RMC Sport Show.
Avec Maryse et bon GP, comme tous les dimanches soirs, 19h30, merci de nous écouter. C'est votre rendez-vous sport du dimanche soir à la radio en direct jusqu'à 20h. Dans quelques instants, le rugby, le 15 de France en route vers le Grand Chelem. On sera avec Romain Ntamack, la pépite du 15 de France, qui sera notre invité ce soir. Le foot à suivre également, mais d'abord le basket en direct et suspense interminable. Jérémy Donzé, Asvel Monaco, 20e journée de Betclic Elite.
Ouais, suspense incroyable dans cette partie. On se dirige a priori vers une prolongation dans cette rencontre, ce choc de la 20e journée de Betclic Elite. Arbitrage vidéo pour ce dernier panier de l'AS Monaco. Pour tout vous raconter, à la sortie d'un temps mort, il y aura prolongation à la sortie d'un temps mort. Il restait 3 dixièmes de seconde pour Monaco. Léo Westermann venait de rater le shoot de la gagne, un shoot à 3 points. L'Asvel menait 2 points, 64-62. Et sur la remise en jeu, après ce temps mort, Mike James, la star américaine de l'AS Monaco, qui sert sur un alley-oop Alpha Diallo, et ça permet à Monaco d'égaliser au buzzer, 64 partout donc, et on va partir pour 5 minutes de rap dans ce choc entre les deux dauphins de Betclic Elite à 3 longueurs du leader Boulogne-Levallois battu hier soir à Dijon.
Et ben on se retrouve dans quelques minutes Jérémy, à tout à l'heure 19h31 dans 1h15 un peu moins, dernier match de la 24e journée de Ligue 1, Metz-Marseille.
RMC Sport Show,
la minute foot.
Et on retrouve pour une minute, en attendant l'after à 20h, Timothée Mémon à Saint-Symphorien. Salut Timothée.
Salut à tous.
4 jours après la claque reçue à Nice, 4-1 en Coupe de France. Bah, l'OM a un grand coup à jouer ce soir, Timothée, en Ligue 1.
Oui. Pour la bonne et simple raison que Nice a raté la marche ce début de week-end. Ils se sont inclinés les Niçois et c'est l'occasion pour cette équipe de Marseille eh bien, de prendre un petit peu d'écart en tête du championnat. Les Marseillais pourraient être seul deuxième, ils l'étaient déjà, mais ils pourraient prendre clairement un petit peu d'avance en potentiellement mettant 4 points d'écart avec l'OGC Nice. C'est clairement l'objectif des hommes de Jorge Sampaoli. Et puis l'objectif c'est aussi de faire oublier la défaite face à Lyon. La défaite de cette semaine qui a fait tâche face à Nice en Coupe de France avec encore une fois des compositions pour le moins novatrices de la part de Jorge Sampaoli et qui peinent un petit peu à être comprises, qui ont été assez largement commentées à Marseille et dans le reste de la France. On attend donc avec impatience la composition de Jorge Sampaoli pour cette rencontre. Côté Messin, il y a la nécessité, pour ne pas dire l'obligation, de grappiller des points, même face à des gros du championnat, parce que ça y est, ça décolle un petit peu en bas de championnat. Saint-Etienne s'est imposé et est passé à la 18e place du classement. Du coup, Metz est actuellement 19e. Heureusement pour les Messins, d'une certaine manière, que Bordeaux n'a pas réussi à égaliser face à cette équipe lensoise après une fin de match où ils ont montré, les Bordelais, qu'ils ne lâchaient rien dans cette course au maintien. Bref, la course au maintien sera extrêmement délicate et les Messins doivent s'accrocher à tout prix. Ils pourront compter aujourd'hui sur leur public, 27 000 personnes présentes au stade Saint-Symphorien. C'est la deuxième fois cette saison que le stade sera à huis clos.
Merci Timothée Mémon.
Non, pas à huis clos du tout, à guichet fermé.
Guichet fermé, ouais.
C'est une mauvaise habitude de ces derniers mois.
Ouais, c'est ça. À tout à l'heure, Timothée. Coup d'envoi de Metz-Marseille à 20h45. Rendez-vous dès 20h dans l'after pour analyser toutes ces compos. Le RMC Sport Show en direct d'ici là avec Maryse et le rugby en route vers le Grand Chelem. Bon, on s'emballe peut-être un petit peu, mais les Bleus ont frappé fort hier contre l'Irlande 30 à 24.
Écoutez-moi ce Stade de France. Allez. Qui se met déjà à rugir. France-Irlande, c'est parti.
Oui, ça monte très haut, c'est long.
Entamac dans le fermé, la femme de Palace, il est passé à l'intérieur.
Et c'est bon, du
c'est bon. L'essai.
Ouais.
Oh. L'essai d'Antoine Dupont.
Extraordinaire essai. Quel essai avec un intérieur de Romain Entamac.
Romain Entamac, la femme de Palace. Allez, Dupont à hauteur pour un bail. Allez, bail. Est-ce que c'est
essai de Essai de Cyril Bay.
Oh, qu'il fait du bien. Et ça passe pour Jaminet. Nouvelle pénalité de l'arrière de Lussac. Victoire de l'équipe de France. Victoire de l'équipe de France. La deuxième dans ce tournoi. Victoire 30 à 24.
La deuxième période du RMC Sport Show.
C'était en direct sur RMC, le commentaire de Wilfried Templier, Denis Charvet, que je soupçonne d'avoir été très content au moment du premier essai de Dupont. Victoire des Bleus face à l'Irlande hier 30 à 24. Jeff Patureau était également sur place pour recueillir les réactions après la victoire. Salut Jeff.
Bonjour, bonjour à tous.
Bon, déjà ce qu'on entend là, quand on entend toutes ces envolées sur les essais, derrière là, le Stade de France, cette ambiance, ça commence à devenir quelque chose. Il y, a, ouais. il y avait les Blacks à l'automne, on a l'impression que le
il, y a un... il se passe quelque chose.
Oui, entre, le, ouais. entre cette équipe et le public.
C'est vrai qu'il y avait une ambiance de fou. Hier, on avait déjà vécu ça au mois de novembre, pour, tu l'as dit, la victoire contre la Nouvelle-Zélande. C'était pas tout à fait la même ambiance contre la Géorgie à Bordeaux ou contre l'Argentine un peu plus tôt, une semaine plus tôt au Stade de France. Mais hier, on s'est régalé du début à la fin. On sentait que tout le public attendait ça avec impatience, que c'était pas une finale, mais que ça ressemblait quand même à un très gros choc. Et du début à la fin, il y a eu du bruit, de la fureur, peut-être un peu parfois, une victoire, quelques sifflets, quelques chants irlandais, mais pas longtemps. Et c'est vrai qu'on s'est régalé pour ça hier.
Maryse, je sais pas si t'as vécu ça devant ta télé ou à la radio, mais tu sens aussi c'est ce qui est en train de se passer là entre une équipe et son public?
Ah oui, complètement. Ça fait un petit moment que ça monte comme ça et ça m'amuse d'ailleurs parce qu'on est toujours en train de se plaindre de du manque d'ambiance quelquefois au Stade de France.
Ouais.
Et en fait, on se rend compte, ben, l'ambiance, c'est ce qui se passe sur le terrain qui le donne, je pense. Et que peut-être que si on n'avait pas cet engouement et cette ferveur, c'est parce qu'il manquait de cette âme ou en tout cas de cette réussite que l'on voit maintenant dans cette équipe. Clairement, ça, il y a quelque chose qui se transmet du terrain au public parce que il y a des actes de génie, il y a des actions, des schisteras, des passages, des combinaisons qui font que tout d'un coup on se dit waouh, mais c'est vraiment un vrai spectacle.
Alors c'est ça, il y a le beau jeu dont tu parles, Maryse, mais quand on regarde le match d'hier, Jeff, il n'y a pas que ça. Là, contre l'Irlande, ça a été une sacrée bagarre. D'ailleurs, c'est peut-être plus même une victoire à la bagarre.
Ah oui, oui.
Hein. Jamais j'aurais voulu le jouer, moi.
Oui, bon,
je ne serais pas avec vous aujourd'hui. Hein. Ouais. C'est une évidence. Mais
parce que contre les Blacks, tu serais venu.
Oui, évidemment. Oui, c'était d'accord. Pas pareil. Mais hier, c'était de l'engagement du début à la fin. On savait que ça allait être un combat permanent face à ces Irlandais. Ils sont réputés très forts en conquête. Et ça s'est encore confirmé hier. Mais quand on voit un garçon comme Gabin Villiers hier, qui n'est pas le plus solide, qui par un moment rate un plaquage mais se reprend et prend son adversaire, l'emmène en touche, mais c'est vrai que du début à la fin c'était une guerre et on a rivalisé, les Français ont rivalisé et ça s'est bien passé. Ça montre aussi que cette équipe de France est capable de bien jouer, mais capable de défendre, capable aussi de se laisser porter par la force qu'elle a en elle, tout simplement.
Et ça c'est peut-être un petit peu nouveau, justement on a souvent parlé du beau jeu, ces joueurs qui avaient du ballon, si on y ajoute en plus le combat, ça devient pas mal. On va écouter justement Fabien Galthié, le sélectionneur des Bleus, après cette victoire contre l'Irlande.
Ben oui, bien sûr, une équipe qui se construit sur le terrain d'abord, et par les résultats et par les performances. Et les joueurs, ils ont en eux un caractère fort, une ambition, des convictions. C'est un groupe qui est habité par la fierté, bien sûr, l'orgueil. Il y a une dimension collective qui est très forte aussi. Aucun joueur ne se sent en difficulté lorsqu'il se trompe. Ça enlève un sentiment de pression, et que c'est vrai qu'on vit beaucoup avec la fierté, sûrement. Ouais.
Voilà, le caractère de cette équipe. Marie, ça aussi, c'est quelque chose d'important, parce que bien jouer, avoir du ballon au rugby, ça suffit plus, quoi.
Non, parce que le niveau quand même dans ces six pays là, bon, on met peut-être l'Italie un tout petit peu à part, et encore il y a du sacré courage même sur le ouais. terrain italien. On se rend bien compte qu'on est dans ce qui se fait de tout meilleur dans cet hémisphère en tout cas. Et puis et on languit, on peut pas s'empêcher de languir d'ailleurs la Coupe du Monde pour voir ce que ça va donner contre les autres nations du rugby. Mais clairement aujourd'hui, enfin si on regarde les matchs de ce week-end, si on regarde le Pays de Galles, si on regarde l'Irlande la semaine dernière justement contre le Pays de Galles, si on regarde ce match de l'Écosse-Galles, enfin, on se rend bien compte que si jamais on baisse un tout petit peu de niveau, et à tous les postes en plus, que ce soit devant ou que ce soit derrière, eh ben, ça gagne plus. Donc il faut tout le temps être au max, et je pense que c'est pour ça que le rugby est tellement fascinant en ce moment.
Et justement, on se projette ce soir dans le RMC Sport Show sur la suite c'est l'Écosse dans 15 jours. On a vu tout le monde, Jeff, Maryse le disait là, les deux journées avec la victoire aujourd'hui de l'Angleterre en Italie, ouais. 33-0.
Gros suspense aujourd'hui à Rome.
Voilà. Ouais. Après deux journées, il reste que la France qui est capable de faire le grand chelem. Tout le monde a perdu une fois par le 15 de France. On est au-dessus là sur ce tournoi destination.
On a le meilleur marqueur avec Gabin Villiers, le meilleur réalisateur. On a la meilleure attaque. Je crois que la deuxième meilleure défense. C'est vrai que tous les voyants sont au vert. Mais justement, c'est là où on va voir si on a appris de nos erreurs du passé. C'est-à-dire qu'il y a deux ans en Écosse, avec une indiscipline de Mohamed Awas qui prend un carton rouge, la France s'incline là-bas. L'année dernière, l'équipe de France veut tenter de gagner en fin de match contre l'Écosse. Ça se passe mal avec une relance un peu folle de Brice Dulin. On perd encore contre les Écossais. Les rugbyman, et je pense qu'on va entendre cette phrase en boucle, ça va nous casser les oreilles, on prend les matchs les uns après les autres.
Et on posera la question à Robin Tamac dans une dizaine de minutes.
Là, c'est pas beaucoup de risques, je pense qu'on va l'entendre partout. Et c'est vrai qu'hier, on a interrogé Antoine Dupont, le sélectionneur Fabien Galthié, on leur a dit, c'est une question de journaliste, le grand chelem. Écoutez la réponse d'Antoine Dupont.
On a tous appris maintenant des deux dernières éditions où on perd peut-être le tournoi sur une défaite en Écosse il y a deux ans. On va pas parler de grand chelem pour le moment, mais on va se concentrer sur le prochain match. On connaît bien cette équipe, donc voilà, on va pouvoir s'y concentrer dessus en espérant qu'on ait quelque chose à jouer de sympa d'ici un mois.
Bon, ça c'est effectivement la langue de bois traditionnelle, le grand chelem, on va pas en parler, mais il a raison ou pas, Maryse, ou quelque part quand même, quand on a vu ce qu'on a vu ce week-end là, et sur même le premier, on est obligé d'en parler, d'y penser à ce grand chelem, non ?
Il pensait, tu sais, ça phagocyte très très vite. Un sportif fait vite une obsession d'une pensée. C'est-à-dire quand on a un rêve, tu peux toutes les nuits te réveiller avec le même truc. Donc quelque part être dans cette espèce de façon de ressasser, on prend les matchs les uns après les autres. 4. C'est presque un mantra, tu sais. Mmh. Tu te le répètes pour écraser la pression. Moi, je trouve ça très intelligent et il a complètement raison. Puis en plus, ça lui correspond dans ce qu'il dégage. Il dégage cette espèce de sérénité. Non, on va pas s'emballer. Ok, on a fait un super match, mais ne nous emballons pas. Il y a un autre challenge qui nous attend derrière.
Et le prochain challenge, c'est donc l'Écosse. Ouais, dans 15 jours, ils vont avoir le temps de
ouais, il y a 23 joueurs, on rappelle. Il y a 23 joueurs protégés, c'est-à-dire des joueurs sur la convention Ligue nationale de rugby, Fédération française de rugby, qui ne joueront pas en top 14 la semaine prochaine, qui vont pouvoir regarder les matchs devant leur télévision sur leur canapé tranquillement. Et on attend aussi d'en savoir un peu plus dans les heures à venir pour Gamma Villière, qui a pris un coup au visage hier, l'ailier toulonnais de cette équipe de France qui est épatant depuis quelques mois chez les Bleus, qui a pris un coup au visage et qui passera des examens demain. Sinon, maintenant, ça va être repos. Aujourd'hui, c'était repos. Demain, ce sera repos. Mardi, ce sera repos, etc. Ils vont rentrer chez eux, en tout cas.
Bon, en tout cas, Jeff, ne bouge pas. Reste là dans le RMC Sport Show ce soir parce que Romain Ntamack sera notre invité exceptionnel dans quelques minutes sur RMC. On va se projeter avec lui. On lui posera la question. Marie, c'est quand même du grand chelem. Il nous répondra qu'on prend les matchs les uns après les autres. Mais on lui demandera au demi d'ouverture du 15 de France. Mais vous le savez.
On prend les paris. On prend les paris sur on prend les matchs les uns après les autres.
On verra. On lui pose la question dans quelques minutes avec Jeff, avec Maryse. Mais d'abord, c'est une belle nuit qui s'annonce pour le sport. Et je ne parle que de sport parce qu'il y a les JO qui nous font lever tôt en ce moment, toutes les nuits. Et c'est également le Super Bowl qui arrive dans quelques heures.
RMC Sport.
Reportage.
La finale du championnat NFL, c'est du football américain, les Bengals de Cincinnati face aux Rams de Los Angeles. Un Super Bowl qui correspond, figure-toi Maryse, à la reprise du championnat élite en France, parce que oui, il y a du foot américain en France. Kevin Morand est allé hier soir à Asnières-sur-Seine pour le match des Molosses contre les Spartiates d'Amiens. L'occasion, Kevin, de faire le point sur l'état du foot américain en France.
Oui, Thibaut, et les Molosses avaient les crocs pour cette reprise. L'élite de football américain était le seul championnat de France de haut niveau à ne pas reprendre depuis le début de la pandémie. Bruno Thoiry, président du club d'Asnières.
Enfin, ça fait du bien de fouler le gazon, même pour les dirigeants. On est très très heureux.
À cause de cette longue pause, le football américain est passé de 25 000 à 18 000 licenciés en France. Mais les Molosses s'en sortent bien. Et selon leur manager, Arnaud Coinon-Vertueux, le championnat élite va reprendre sa progression.
Nous, en tout cas, on n'a pas eu une baisse significative du nombre de licenciés. Avec les nouveaux moyens de communication, il y a plus de visibilité. Maintenant, il faut qu'on suive sur le terrain à proposer un vrai spectacle, un peu comme ce qui se fait aux États-Unis.
Pour la première fois, des matchs de saison régulière seront diffusés à la télévision pour attirer spectateurs et téléspectateurs. Le football américain tricolore doit s'inspirer du basket. Pour le président des Molosses, Bruno Thoiry.
Le football américain, ça doit être du spectacle. Donc là, c'est la reprise, c'est peut-être encore un peu difficile, mais j'espère bien que nous, Molosses, et puis les autres, on montre pas seulement du spectacle sportif, faut que ce soit une fête dans les tribunes, sur le terrain.
En tribune, Quentin et Oxane vantent les mérites de leur discipline préférée.
Les gens, quand ils le découvrent, ils tombent très vite amoureux de ce sport. Il y a une bonne ambiance, un esprit d'équipe qu'on retrouve dans aucun autre sport.
Il y a la culture du show, quand ça dégrouille, tout ça.
On connaît pas tellement le football américain de France. Je pense qu'il faut encourager notamment les jeunes à s'y mettre, rendre ça plus visible, créer des événements autour de ça.
Mais à l'instar du basket qui a profité de Tony Parker en NBA, il manque encore un ambassadeur pour mettre en lumière le football américain tricolore. Un seul Français a joué dans la puissante ligue nord-américaine, la NFL. C'était Richard Tarditz, il y a 30 ans déjà. Walid Boussouf, joueur défensif d'Asnières.
Là, on est en train de toucher le semi-pro. Faudrait qu'on dépasse ça pour ensuite avoir vraiment une vraie fédération professionnelle. Il manque encore ce petit truc pour qu'on puisse avoir une place vraiment dans un groupe NFL toute la saison.
Et cela pourrait bientôt arriver selon Florian, l'un des commentateurs passionnés de la Web TV des Molosses.
Il y a de plus en plus de joueurs français qui sont dans des universités de première division au NCAA. Donc je pense que c'est une affaire d'année pour qu'on ait un joueur qui soit drafté en NFL.
En tout cas, tous vont se coucher très tard cette nuit.
Il y a le Super Bowl, on attend ça depuis le début de la saison. On va se voir avec l'équipe, les amis, la famille.
On pense que ça va être un très très beau Super Bowl.
Pour surfer sur l'événement, la Fédération française organise d'ailleurs une fête ce soir au Grand Rex.
Merci Kevin Morand, le reportage du RMC Sport Show, le Super Bowl, cet événement qui sera suivi partout à travers le monde, pas trop en France, hein, c'est vrai Maryse, ça a du mal quand même à prendre, hein, le foot américain. Alors il y a le terrain dont on a parlé, et puis il y a aussi le show, la mi-temps, c'est ça aussi le Super Bowl, très rap cette année, l'événement Eminem, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Kendrick Lamar et Dr. Dre pour un show qu'ils annoncent d'anthologie. T'imagines ça en France avec Kinvé à la mi-temps Non, bon.
C'est ça, hein. Pardon, événement mondial, c'est pas gentil.
Pas gentil pour qui, ça, Marie.
Non, mais Je crois que le foot américain, c'est tout ou rien. Je pense que ceux qui sont fans en France sont archi fans, vraiment, et souvent pratiquants d'ailleurs, et vont le suivre non-stop, vont se faire des nuits blanches, exactement comme pour la NBA, même si ça n'a pas le même impact chez nous, puisque le basket, chez nous, on connaît. Il y a quelques clubs de foot américain en France, pas énormément, mais ceux qui le pratiquent en sont totalement dingue. Et puis après, il y a ceux qui, comme moi, sont complètement hermétiques au truc. Et pourtant, j'ai été étudiante américaine. J'ai donc forcément été voir des matchs. Honnêtement, je n'ai jamais rien compris, mis à part que j'avais mon saut de popcorn, mes nachos, et que je regardais la musique à la mi-temps. Mais le côté spectacle, c'est certain. De toute façon, dans tous les sports américains, hein, ce côté-là est extrêmement fort. Après, c'est quand même un sacré sport. Mais je vous avoue, je préfère largement le rugby.
Ouais. Bon, après, le show à la mi-temps, Kinvey, Clara Luciani, par exemple, nous disait, me dit Toto dans l'oreillette, ça pourrait aussi avoir de la gueule. Bon, 19h46, on est en direct jusqu'à 21h avec Maryse et un point sur notre direct. Le basket, justement, la Betclic Elite. Décidément, l'ASVEL et Monaco ne veulent pas se départager, Jérémy Douanzé.
Ouais, on va rester en fil rouge jusqu'au bout. 72 partout, on va être parti pour une deuxième prolongation dans cette rencontre. Les deux équipes ont eu leur balle de match pour Chris Jones du côté de l'ASVEL, pour Mike James du côté de l'AS Monaco, mais aucun des deux n'a réussi son panier. 72 partout, on est parti pour 5 minutes supplémentaires dans ce choc de la 20e journée de Betclic.
On se retrouve dans quelques secondes, Jérémy, pour la suite de cette rencontre et la fin du RMC Sport Show avec un invité exceptionnel, Romain Ntamack sur RMC. A tout de suite.
RMC Sport Show,
Thibaut Giangrande.
Avec Maryse et Bonvépé, toujours jusqu'à 20h comme tous les dimanches. Ce sera ensuite l'after autour de ce match, le dernier de la 24e journée de Ligue 1 entre Metz et Marseille. Rugby, d'ici là, la France en route vers le Grand Chelem. Les Bleus iront en Écosse dans 2 semaines après la victoire contre l'Irlande hier.
L'invité du RMC Sport Show.
Et nous sommes avec un invité exceptionnel ce soir sur RMC, le demi d'ouverture du 15 de France, Romain Ntamack. Bonsoir Romain.
Bonsoir à tous.
Merci beaucoup.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous ce soir. Déjà, on est 24 heures après. Comment ça va physiquement, ce combat incroyable auquel on a assisté hier? Est-ce que le corps n'est pas trop meurtri là, au lendemain de cette bagarre?
Si, forcément, un peu fatigué, un peu courbaturé, parce que ça a été un combat assez acharné, pas trop d'envolée, mais voilà, moi j'ai pas été trop sollicité, même si j'ai pris quelques coups. Devant, ça a plus cogné, mais voilà, le lendemain, on essaie de se reposer et se régénérer pour le futur.
Est-ce que vous avez pu un peu fêter ça quand même hier soir, ou parce que le prochain match contre l'Écosse, on le disait tout à l'heure, c'est dans 15 jours, on prend le temps de fêter une belle victoire contre une grosse équipe irlandaise là?
Oui, forcément, hier on a eu le temps de fêter ça, on est rentré à Marcoussis très rapidement, on était entre nous avec les joueurs, le staff, donc on était tous ensemble, réunis, et ouais, on a pris le temps de bien fêter ça, parce que c'est important de profiter de ces moments-là, et on est resté entre nous, donc ouais, ça s'est bien déroulé, on était très contents, quoi.
Jeff Paturo.
Romain, l'Irlande restait sur 9 victoires consécutives, elle n'a plus perdu depuis un an avec un match contre vous, 3e nation mondiale. Est-ce que ce n'est pas un autre match référence qui va compter dans l'histoire de votre équipe de France?
Si, forcément, c'est un match qui va compter, parce qu'on attendait tous ce match avec impatience. On savait la qualité de l'équipe d'Irlande depuis quelques mois. C'est vrai qu'ils produisaient sûrement le plus beau jeu et le meilleur rugby depuis un moment. Donc voilà, on savait à quoi il fallait qu'on s'attende, et on avait bien préparé ça. On y pensait depuis un moment. Donc on avait vraiment coché ce match-là, et on voulait vraiment répondre présent dans tous les secteurs du jeu. Et je pense que hier, cette victoire nous fait énormément du bien, nous donne encore plus de confiance après cette tournée de novembre qui s'est bien déroulée. Donc voilà, ça confirme que cette équipe grandit à chaque sortie et qu'elle est capable de réaliser des grands matchs et de les enchaîner.
Maryse et Bon-GP.
Est-ce qu'on a l'impression, quand on sort de ce match-là, que le plus dur est fait pour ce tournoi 2022?
Non, on n'a pas cette sensation-là, parce qu'on sait très bien qu'il y a encore pas mal de chemin à parcourir. On a un match en Écosse qui nous attend, on sait combien ça va être dur. On connaît cette équipe écossaise qui est incroyable et qui est très très dangereuse. Donc voilà, et derrière, il faudra aller se déplacer encore au Pays de Galles et recevoir l'Angleterre. Donc c'est trois gros matchs encore qui nous attendent. On ne dit pas que le plus dur est fait, mais on se dit qu'il y a déjà ces deux matchs qui sont derrière nous, ils sont gagnés. Donc déjà cela, on n'aura plus besoin de se pencher sur ça. Mais on se dit pas qu'on a gagné le tournoi ou quoi que ce soit.
On parlait tout à l'heure avec Jeff, avec Maryse, Romain Ntamack, de de grand chelem. On sait, c'est l'objectif de ce 15 de France qu'il attend depuis 12 ans maintenant. Il y a deux victoires. L'Irlande faisait figure de gros morceaux. Et on se disait, on entendait Antoine Dupont tout à l'heure, on a passé un petit extrait, que vous, les joueurs, vous ne vouliez pas, vous ne pouviez pas en parler. Est-ce que quand même on peut parler d'un beau lancement vers un possible grand chelem?
Ouais, c'est pas qu'on veut pas en parler, mais c'est juste qu'on c'est trop loin. On peut pas se permettre de penser ça maintenant, parce que ça fait que deux matchs, on est même pas à la moitié du tournoi, donc il y a encore beaucoup de choses à faire, il y a encore de très grandes équipes à affronter, donc on peut pas se permettre de penser à un grand chelem. Ça serait, je pense, faire offense aux équipes contre lesquelles on va jouer plus tard. Donc non, honnêtement, on n'y pense pas, on se concentre sur nous et puis on verra à la cinquième journée du tournoi où on en sera pour espérer et penser à un potentiel grand chelem. Mais ce qui est sûr, c'est que si on perd en Écosse, déjà, ce sera terminé. Donc non, on se permet pas de penser ça. On travaille tranquillement de notre côté pour enchaîner les matchs, gagner le plus de matchs possible. Et si on arrive contre l'Angleterre en étant invaincu, alors on pourra penser à un grand chelem. Mais on n'y est pas encore.
Mais Romain, en tout cas, cette fin de victoire, vous devez l'avoir en vous, parce que l'année dernière, vous étiez deuxième du tournoi, il y a deux ans, pareil. L'objectif, c'est de le gagner, absolument, surtout un an et demi de la Coupe du Monde, de frapper les esprits, non?
Ah oui, l'objectif, c'est de le gagner, clairement, mais on l'avait annoncé déjà avant l'Italie, que notre objectif, c'était de remporter un titre, de gagner un tournoi, si possible, de gagner celui-là cette année. Donc, non, ça, on s'en est pas caché, mais encore une fois, c'est tellement long le tournoi, il y a tellement des équipes dures à affronter qu'on peut pas se permettre au bout de la deuxième journée, même si on a fait un grand match contre l'Irlande hier, de se dire que le tournoi est gagné ou qu'on va faire un grand chelem. Donc on reste très prudent sur ça. On sait au combien ça sera difficile d'aller battre cette équipe d'Écosse chez elle. Donc déjà on va profiter de cette victoire d'hier, de ce premier bloc qui est passé, pour se concentrer très rapidement sur l'Écosse.
Romain Tamac. Ouais,
bah moi j'ai entendu, on n'est pas encore à la mi-tournoi. Donc ça veut dire que le prochain match, à la fin du prochain match.
50%, c'est compliqué, Marisa.
Logiquement, est-ce qu'à la mi-temps du prochain match, on va avoir le droit de poser la question ou juste le droit de se taire et d'attendre un peu?
Non, je pense qu'on pourra se poser la question après ce match au Pays de Galles. Si en Écosse ça se passe bien et au Pays de Galles ça se passe bien, alors on pourra, je pense, poser la question. Mais on peut honnêtement, il reste trois grosses équipes à jouer et de penser ça déjà là maintenant, ça serait pour moi et pour nous, je pense que c'est quand même impensable.
Romain Tamac, le demi d'ouverture du 15 de France est dans le RMC Sport Show ce soir. Romain, encore 2-3 minutes avec toi. Tu parlais de l'Écosse tout à l'heure, le prochain adversaire. Sur le papier, c'est pas un nom, au regard de ces 20 dernières années qui fait peur, forcément.
Ils ont battu l'Angleterre la semaine dernière.
Ils ont battu l'Angleterre la semaine dernière. Surtout, Romain, ils vous ont battu l'année dernière. Ils vous ont battu il y a deux ans. C'est quoi le problème avec l'Écosse là? On a l'impression que c'est un peu l'espèce de kryptonite du 15 de France.
Ah, mais le problème, c'est que c'est une très belle équipe qui surprend à chaque match. C'est vrai qu'ils battent l'Angleterre cette année. Ils les battent l'année dernière. Nous, ils nous battent l'année dernière à la dernière action. Donc c'est qu'au bout d'un moment, l'Écosse fait partie des grandes équipes de ce tournoi-là depuis maintenant quelques temps et ils sont très dangereux. On le voit encore hier, ils sont à deux doigts de gagner au Pays de Galles. Franchement, c'est très dur de battre ces Écossais aujourd'hui. Donc tout le monde s'en méfie, nous les premiers. C'est vrai qu'ils nous mettent à mal quand même depuis un petit moment. On a du mal à les jouer. Donc, on va vraiment, je pense, préparer ce match avec beaucoup de sérieux parce que c'est pas gagné en Écosse.
Jeff,
est-ce que tu as l'impression que vous avez beaucoup grandi tous depuis deux ans à cette défaite en Écosse?
Oui, on a clairement grandi parce que on arrive à gérer un peu mieux ces fins de match-là. On arrive à mieux gérer, je pense, nos temps faibles aussi. On l'a vu contre les Blacks où en retour de mi-temps où on prend trois essais. Hier contre l'Irlande, on prend deux essais d'entrée, ils reviennent à un point et on arrive à pas s'affoler. On reste focalisé sur notre jeu. On fait des choses assez simples pour se remettre la tête à l'endroit et on arrive à marquer des points qui nous font du bien pour remettre la marche avant. Donc, je pense qu'on arrive à mieux gérer ces temps faibles pendant les matchs. C'est vrai qu'en Écosse, on n'avait pas beaucoup de vécu commun non plus. Donc, je pense que le fait d'avoir cette équipe qui bouge pas trop depuis maintenant deux ans et demi, on arrive à se connaître, on arrive à mieux se comprendre et gérer ces situations tous ensemble.
Dernière question, Romain Tamac, l'Écosse, c'est dans 15 jours. D'ici là, vous allez être libéré de Marcoussi. C'est quoi le programme des prochains jours de la semaine qui arrive là? Repos?
Bah, le programme, moi, ça va être de la récupération, du repos, un peu déconnecter, je pense, un peu du rugby et penser à autre chose parce que le tournoi est long et physiquement et mentalement, c'est assez usant. Donc, je pense qu'il va falloir régénérer les corps, les esprits pour repartir de l'avant pour ce match en Écosse et être concentré sur cet objectif-là.
Suivre un peu les JO, tiens, juste comme ça, ça t'intéresse, tu suis un petit peu Pékin, là, les Bleus?
Ouais, je suis pas trop, mais je regarde un peu les résultats de nos Français, donc on n'a pas trop le temps non plus de se poser devant la télé, et en plus, avec le décalage, on est un peu en retard sur les résultats, mais on arrive à suivre un petit peu ce que nos Français font. Ouais.
Merci.
Bonne épreuve de biathlon à Marc aussi, ça changera un peu. Hein.
Ah oui, c'est vrai. C'est on proposait le biathlon il n'y a pas longtemps avec Denis. Merci. Ouais.
Le biathlon.
Oui, c'est un truc qu'on a inventé.
C'est pas Denis
Charvet.
Pour moi, peut-être. Ouais, c'est avec Denis. Ouais. De le faire.
Merci beaucoup, Romain Tamac, d'avoir été sur RMC ce soir et à très vite. Et bon repos avant l'Écosse. À bientôt, Romain.
Merci. Merci, bonne soirée.
Il est 19h58 dans un instant l'after, juste avant ce match de basket interminable. C'est la Betclic Elite Asvel Monaco, Jérémy Donzé.
Et on arrive à la fin de la deuxième prolongation ici à l'Astrobal. 40 secondes encore à jouer. Et l'Asvel mène de 6 points, 85-79. Les Villeurbanais ont pris une option sur cette rencontre.
L'épilogue dans un instant, l'after autour de Gilbert Bribois et de ce Metz Marseille, dernier match de la 24e journée de Ligue 1. Merci Maryse, bonne semaine, bonne soirée à tous. À très vite, ciao.
RMC l'after foot. Le match.